Interview.
1 Terre. L'interview du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie de Béatrice et Christine. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Nous sommes ensemble puisque vous êtes de passage dans le DIWA chez José, notre ami à Boulk, pour faire deux concerts un petit peu exceptionnels qui ont été prévus comme ça à la dernière minute, un petit peu, c'est-à-dire il y a une semaine ou deux, concerts d'électro-acoustique, un à Boulk et un à Barnave, ce soir pour celui de Boulk et puis demain soir pour Barnave. Avant d'aller un petit peu plus loin...
À 21h15,
les deux.
Oui.
Avant d'aller un peu plus loin dans la présentation de ce concert, est-ce que vous voulez bien vous présenter l'une et l'autre ?
On va présenter un concert d'acousmatique, de musique de support, on pourrait l'appeler aussi, à savoir que c'est une musique qui, au départ, on fait des sons, on travaille avec tout le sonore, on enregistre. Et ensuite, on transforme le matériau et on en fait petit à petit une construction musicale, comme une sorte d'architecture sonore ou de sculpture sonore. Et ce soir, on va interpréter la pièce en public et en direct avec plusieurs haut-parleurs et on la joue, disons, on la spatialise, à savoir qu'on accentue les trajets dans l'espace. Donc les deux endroits sont très, très jolis, ce sont des champs comme ça, un peu au milieu de la montagne. Et à Boulk, par exemple, il y a des arbres, donc on va essayer d'implanter les haut-parleurs dans les arbres et de faire une sorte de feu d'artifice sonore au milieu des arbres, par exemple.
Ce que je voulais, avant même la présentation de ce spectacle, c'était un petit peu aussi passer par votre parcours à vous. Alors sachez qu'à RDWA, on n'est pas du tout étranger à l'art sonore. On a déjà eu plusieurs artistes dans ce domaine-là. On n'est pas étranger non plus à l'art numérique. Je sais que vous travaillez à l'IRCAM ou que vous y avez travaillé. Voilà, c'est un peu ces références-là qui nous intéresseraient.
Alors moi, personnellement, j'ai travaillé à l'IRCAM pendant 10 ans, il y a longtemps déjà, et donc je n'y suis plus. Et je me revendique plutôt d'un courant plus acousmatique, c'est-à-dire d'un travail vraiment avec la matière sonore et avec le son enregistré, le son acoustique, et dans le courant de Pierre Schaeffer, c'est-à-dire ce qu'on pouvait appeler autrefois la musique concrète. Donc Pierre Schaeffer a inventé la musique concrète électroacoustique en 1948. Et c'est lui qui, à partir de la boucle, en fait, c'est l'inventeur de la boucle, même si maintenant on travaille justement beaucoup avec la boucle, c'est finalement l'inventeur de la musique électronique, électroacoustique. Donc nous, on se situe peut-être dans un courant, entre guillemets, un peu plus savant. Où il y a vraiment toute une construction, une invention, une espèce de créativité où on invente tous les sons, on invente la forme, on invente un peu toute la pièce. Mais disons qu'on se rejoint au niveau peut-être des outils et de la façon de faire.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a un traitement électronique de sons que vous avez enregistrés au préalable. Quels sont ces sons ?
En fonction des compositeurs, je pense que c'est très, très variable.
Mais pour vous,
on fait des sons. Alors pour moi, en fonction de chaque pièce, j'invente ma palette sonore. Là, par exemple, je vais passer, je crois que c'est à Barnave, La Condition Captive, qui est une pièce où au départ, il y a eu plusieurs raisons, disons, à cette création. À la fois, il y avait la guerre d'Irak à l'époque, qui, moi, m'avait complètement bouleversée. Il y avait la destruction d'une maison, il y avait aussi le lieu de diffusion qui était le château de Guillaume le Conquérant à Caen, c'était pendant un festival. Et donc j'ai travaillé par exemple à partir de sons de chevaux. Donc pendant très longtemps j'ai collecté des sons de chevaux, de pas de chevaux, de hennissements, de violence, la condition captive comme le mot l'indique. Bon, c'était aussi une façon de parler de la condition. féminine ou captive, quelque chose comme ça. Donc je suis partie de sons de chevaux, je suis partie de choses qui coupaient, c'est-à-dire qui donnent vraiment le tranchant. Donc j'ai pris des sons de hache, de coin dans des bois, des choses très violentes et très rapides qui se déchirent dans le bois. J'ai pris des sons de feu, de fournaises ardentes que je suis allée enregistrer à Venise, des feux dans lesquels on fabrique le verre, on va tourner le verre. Donc ce sont des sons assez puissants de feu qu'on entend à la fin. Donc par exemple pour cette pièce, voilà quelques exemples de prises de sons.
Puisqu'on a parlé de musique concrète, là au moins c'est un peu concret.
Je vais passer la parole à Béatrice, qui est un peu une pionnière, puisqu'elle a collaboré avec Pierre Schaeffer. Enfin, moi j'étais une élève, mais un peu après. Donc je passe la parole à Béatrice.
Oui, j'ai découvert la musique concrète et Pierre Schaeffer en 63. Et c'est grâce à un compositeur argentin qui travaillait au groupe de recherche musicale, au GEREM à l'époque, qui s'appelle d'ailleurs Edgardo Cantón, très très doué pour la musique. Et j'ai pu entrer comme stagiaire très rapidement, un stage de 2 mois en 63. Et après, j'ai travaillé avec Schaeffer pour le disque, pour le solfège. À partir de là, bon, je suis restée 7 ans, 8 ans. Et puis en 70, je suis partie.
Au groupe de recherche musicale, c'est ça ?
Au groupe de recherche musicale, oui, je le dis. Le GEREM, c'est le groupe de recherche musicale. Et à partir de là, bon, j'ai fait ma musique pour film, pour ballet, pour tout ce que je pouvais faire, cinéma, etc. Et concerts, festivals. J'ai travaillé beaucoup avec l'IMEB, le groupe de recherche musicale de Bourges, qui s'appelait après Institut. Il y avait d'autres ensembles qui me demandaient la musique, surtout des gens à l'étranger, beaucoup avec d'autres pays. Parce que c'est ces gens-là que je connaissais et que je pouvais rentrer en contact à Bourges. Comme disait Christine, je suis très schaefferienne dans le sens que, pour moi, il y a toutes sortes de possibilités sonores. Il y a l'électronique, mais il y a aussi l'électroacoustique qui est le que j'aime le plus. La voix, les instruments de musique, tout ce qui sonne.
Parce que là, quand vous avez parlé des compositions sur des musiques de films, etc., c'était pas aussi, créatif que ce que vous pouvez faire maintenant ?
Ah non, pas du tout. C'était la musique électroacoustique, acousmatique.
D'accord, déjà.
Pour des films expérimentaux, il y avait des films, même un grand film de 55 minutes où j'ai fait toute la musique expérimentale là-dedans.
D'accord.
Parce que ça m'intéressait pas de faire une musique un peu populaire.
Mélodico-rythmique.
Oui, j'adore danser, mais pour faire la musique, je préfère faire la musique beaucoup plus construite. Et je m'appuie énormément sur justement les couleurs, les formes des sons, sur une discipline d'écoute très très poussée pour aller très très loin dans ces sortes de compositions, si vous voulez. J'aime pas beaucoup l'improvisation, sauf pour m'amuser. Je ne me sens pas très à l'aise. Je préfère une composition très, très poussée sur le sens du sens et de la composition. Et j'ai toujours des thèmes. Il y a, par exemple, demain, la babale du chien-chien à la mémère, par exemple. Ou la rivière des oiseaux aujourd'hui, ou les larmes de l'inconnu. Et ce sont tous des thèmes avec des sons très différents, qui sont tous en rapport direct avec le thème. Alors, chaque pièce et chaque thème demandent une construction et une recherche sonore très différente, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire tout ça avec le même son. Et ça, c'est très intéressant.
Alors, est-ce que vous pouvez l'une ou l'autre, ou toutes les deux en même temps, peut-être de concert, un peu nous allécher un peu à l'électroacoustique ? Enfin, est-ce qu'il y a un côté quand même expérimental et assez compliqué pour les gens ?
Oui.
De musique, vous avez dit concrète, mais parfois de musique complexe aussi. On a un peu entendu à travers vos discours la manière dont c'était fabriqué. C'est long. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce travail-là ?
Mais c'est très long. En ce qui me concerne, je prends 4-5 mois pour faire une musique.
Pour faire un morceau de combien de temps, par exemple ?
Ça dépend, de 15 minutes même de 10 minutes, je prends 4 mois. Parce qu'il y a d'une part la recherche du sonore. Quels sons je veux prendre ? Pourquoi ? Où ? Et moi, j'ai toujours des choses un peu un peu curieuse et personnelle. J'entends des sons, je vois des trucs et puis j'essaye de me guider de ça par rapport à un thème. C'est tout le travail de préparation qui est terriblement long. Parce que non seulement on a des fichiers énormes de sons différents, mais à l'intérieur de ça, il faut... Moi, je mémorise les sons, je les écoute, j'ai fait des schémas des sons. Chacun peut avoir 400, 500, 600 sons. Et toute cette mémorisation fait que petit à petit, la musique commence à se construire dans ma tête. Bon, ça, c'est ma manière de faire. Il y a d'autres qui font des choses complètement différentes. Et ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec l'espace dans la musique intérieure. Et puis, cette musique, cet espace va exploser dans le concert. Parce que comme il y a beaucoup de haut-parleurs, ça vole. Et ça c'est une joie de sentir que le son vole autour, qui prennent une espèce de... C'est comme des oiseaux, c'est comme du vent, ça peut être n'importe quoi, non ? Et ça, c'est très, très prenant.
Est-ce que ça veut dire qu'à la maison, vous travaillez avec le même type d'installation que ce que vous pouvez poser en extérieur ?
Non. Moi, je travaille en stéréo. Ouais. Mais ces stéréos-là, après, explosent dans l'espace. D'autres compositeurs travaillent. Christine travaille avec le 8-piste directement. Mais moi, j'aime beaucoup jouer avec les sons dans l'espace.
Donc, garder cette part, en fait, finalement, d'un imprévu possible.
Exact.
Dans le, voilà.
Exact.
Enfin, vous n'aimiez pas improviser, mais en fait, un petit peu quand même.
Ah, là, j'ai improvisé totalement. Ça, c'est mon improvisation personnelle dans l'espace. Alors là, je me donne à cœur joie. Je ne joue jamais pareil. Aucune pièce. Je m'adapte à l'endroit où je suis. Et là, il y a des haut-parleurs sur les arbres. Alors ça va être encore la rivière des oiseaux. Ça va... Ouïk, je ne sais pas ce qui va se passer là.
C'est ça qui est d'ailleurs assez, assez drôle, c'est qu'on a un peu de mal à comprendre, c'est la diffusion à partir d'un CD, finalement un support stéréo de deux pistes, et d'arriver à le jouer sur 40 haut-parleurs. Bon, c'est pas ce qu'on aura ce soir quand même, mais normalement en concert, ce qu'on appelle un acousmonium, comme il y a à Cré d'ailleurs au festival de Futura qui va se passer en août, là ils ont 40 haut-parleurs, des très gros haut-parleurs, et il faut toute une installation pour finalement que le son soit complètement démultiplié à la source pour arriver à ce que chaque bouton de la console soit relié à un haut-parleur. Et nous, en tant que compositeurs ou qu'interprètes de musique acousmatique, on joue avec l'espace. Donc c'est vraiment une interprétation. Dans ce sens-là, on interprète. Donc c'est jamais la même chose.
Et moi, j'aime pas le mot d'interprétation parce que ça donne à des changements de dynamique dans le son. Les gens interprètent subitement, c'est très fort, alors ils baissent les potentiomètres, c'est trop. Moi, je préfère spatialisation, c'est la mise en espace, en champ spatial, cette musique. Alors, oui. C'est une question de mots.
Oui, interprétation, c'est un peu fort, disons, puisque la musique existe déjà, mais il y a quand même une chose très, très importante et très active et très vivante à faire au moment du concert. Entre le lieu, le public, la façon dont les choses sont installées, il y a quand même beaucoup de... Il y a vraiment à la spatialiser, quoi. C'est un vrai travail.
On appelle ça une performance, alors ?
C'est une performance.
Oui. Ce n'est pas indifférent du tout.
Moi, contrairement à Béatrice, qui parlait tout à l'heure de l'improvisation, moi, personnellement, depuis un temps... j'ai envie de faire de l'improvisation électroacoustique, à savoir que les interfaces, donc les outils de jeu, les claviers, les molettes, les surfaces de contrôle, ont énormément évolué. C'est très simple maintenant, c'est pas cher. Et je dois dire que le jeu, alors peut-être je suis influencée moi par mes étudiants, parce que j'enseigne la composition électroacoustique à Paris, et mes étudiants aiment vraiment improviser maintenant, les jeunes. Je pense que la dynamique des jeunes me pousse moi aussi à avoir envie d'improviser. Donc maintenant je tente des concerts d'improvisation voilà, en direct.
C'est ça, c'est, vous avez cité 8 pistes tout à l'heure pour Christine, Béatrice, et puis vous travaillez sur du stéréo. Alors, est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin avec quel type de matériel ? La perche qui est lancée par ce côté, parce que vous parlez de vos étudiants, mais justement, il y a la possibilité peut-être de jouer un petit peu en live. Enfin, moi, je vois deux types, deux manières. Soit vous interprétez la musique telle qu'elle est ou vous repassez éventuellement un CD et puis vous travaillez sur l'espace.
Ouais.
Soit vous êtes en train de la faire en direct, en live, ce qu'on appelle. Ouais. Comment vous travaillez ?
Le live, si je peux ajouter quelque chose au live maintenant, une des choses intéressantes, de par notre expérience de spatialisation de la musique stéréo en concert sur Acousmonium, moi je sais que je reste très sensible à la spatialisation, peut-être beaucoup plus sensible que certes de jeunes qui n'ont pas connu cette expérience-là. Et donc, en direct, quand on fait une improvisation live, en fait, on invente un système de diffusion très spatialisé. Par exemple, là, on a fait une improvisation au mois de juin et on avait fait une sorte de totem au milieu. On était plusieurs personnes à improviser, où chaque personne avait un haut-parleur et tout autour, chacun avait aussi un haut-parleur. Donc en tout, ça faisait 16 haut-parleurs en rond, qui faisaient une espèce de grand éventail ou de grand cercle, qui fait que quand on jouait, le son se mettait en circuler finalement en cercle, un grand, grand cercle autour. Et c'était très intéressant. Donc il y a moyen aussi de travailler la spatialisation et un peu la cinétique, le mouvement. Aussi en live, ce que je trouve qu'on ne fait pas assez, moi, personnellement, parce que je pense que les gens manquent finalement d'imagination à ce niveau-là.
C'est toujours le bon vieux mur en façade qui...
Oui, oui, sont des sonos de concert plats, des grosses sonos plates qui ne bougent pas. Mmh. Alors qu'en fait, l'intérêt de cette musique, c'est de travailler avec des forces, avec des mouvements, avec quelque chose de très mobile et de très léger qui vole dans l'air, quoi, dans tous les sens. Et ça reste à faire parce que les grosses sonos ne sont pas du tout adaptées à ça.
Et peut-on savoir sur quel type de matériel vous travaillez précisément ? Quel type de logiciel peut-être de...
Je crois qu'on travaille tous, à peu près tous, mais il y a d'autres, sur le Pro Tools et sur des plugins qui viennent de Jerem, qui sont des plugins qui viennent de la bande magnétique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut manipuler directement le son et le transformer comme si on avait une bande magnétique. Ce n'est pas pareil parce qu'avec la bande magnétique, on faisait des choses qu'on ne peut pas faire avec les logiciels et avec les logiciels, des choses qu'on ne peut pas faire avec la bande magnétique. Alors, de temps en temps, les vieux comme moi, nous gardons toujours des revox, des choses comme ça parce qu'il y a des manipulations qu'on fait en direct avec ça. C'est-à-dire qu'au fond... Au fond, la transformation, ce sont des logiciels, mais il y en a énormément de logiciels. Christine, qui est beaucoup plus connaît beaucoup plus ces logiciels, peut vous parler beaucoup plus facilement. Moi, c'est un peu tout ce qui existe possible avec des transformations de hauteur, de masse, de dynamique, de mouvement dans l'espace avec les Doppler, des... qui vient un tout petit peu, je vous dis, à la technique qu'on a eue pendant très très longtemps avec les magnétophones. Mmh. Parce qu'avec les magnétophones, on avait des appareils qui permettaient beaucoup de choses. Et ces transformations-là, maintenant, on les a beaucoup plus facilement, pour certains, avec des logiciels très très performants.
Mais on voit bien qu'il y a une partie du son effectivement qui n'est plus la même puisque c'est numérisé. Et est-ce que vous avez aussi des composants que vous avez fabriqués, vous, peut-être des machines à effets particuliers ?
Non, parce que pour ça, il faut quand même connaître...
Toucher un peu les...
Faut savoir un tout petit peu ce qu'on fait. Il y a des gens qui font des logiciels. Moi, non, je n'ai jamais fait ça.
Ou en mécanique, hein, je parlais aussi de machines, réadaptation d'un magnétophone, ce genre de choses.
Oui. Non, ce qui m'intéresse plus, et je suis un tout petit peu à la façon de Parmigiani, de Bernard Parmigiani, quand on parlait de ça, c'est de trouver un logiciel et puis essayer de faire tout ce que le logiciel ne peut pas faire. C'est-à-dire que bon, ça s'est planté, ça fumait, enfin tout ça, mais on arrivait quand même à trouver des trucs qui n'étaient pas prévus pour les logiciels. Et on a toujours essayé de faire ça, même avec la bande magnétique, même avec les appareils qu'on avait analogiques. Ça.
Amener l'appareil à un autre endroit.
À l'autre endroit et essayer des trucs comme ça, farfelus. Mais en ce qui me concerne, je préfère la combinatoire des sons. Parce que quelquefois, des manipulations très simples comme la transposition, c'est des graves à l'aigu ou de l'aigu à grave, mélangées avec beaucoup d'autres sons différents et la construction même fabrique des sons qu'on n'a jamais entendus ou qui sont très bizarres, qui bougent d'une certaine manière. Et c'est plutôt la construction qui fait ça que la manipulation tout court. Quelquefois, c'est aussi une bonne manipulation, mais c'est la construction qui fait de temps en temps des choses comme des objets construits par des petits mouvements, des trucs. Et ça, c'est à l'infini, parce qu'on peut mettre des sons très, très différents ensemble, et puis c'est la résultante est quelque chose qu'on n'a pas, qui est autre chose. Non c'est
comme si on passait son temps à rajouter une toute petite goutte de peinture à chaque fois dans un mélange.
C'est comme la peinture, non la même chose. Ce n'est pas plaqué, c'est vraiment... On ajoute, on sort,
on utilise beaucoup, nous, le montage, et au lieu des plugins. Et je pense que là aussi, ça entraîne quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'à chaque moment, on décide de ce qu'on va utiliser comme son, comment on va le couper, un peu comme le cinéma, on fait vraiment du montage. Et on utilise le plugin ensuite pour transformer, renforcer, donner une forme, donner un mouvement, donner une direction. Mais l'association du montage, c'est-à-dire de pouvoir choisir par exemple 5 sons mais complètement différents et de les mettre l'un au-dessus de l'autre par montage, ça fait une espèce d'agglomérat complètement original qui ne ressemble à rien. Et là, l'imaginaire et la sensibilité du compositeur devient forte, disons. C'est-à-dire qu'aucun son ne se ressemble, ça devient vraiment quelque chose de très, très original. Contrairement aux plugins, qui ont déjà des couleurs, qui ont des choses très marquées, très standards, et qui, moi, personnellement, m'ennuient un peu.
Et que, par ailleurs, tout le monde peut avoir. Hein.
Et tout le monde a le même, tout le monde fait le même son, et ça devient une espèce de sauce, un petit peu standardisée, normée, qui pour moi est moins intéressante. Et on parlait tout à l'heure des plugins. Bon, il y en a des milliers maintenant, ça sort tous les jours, il y a un plugin qui sort, qui sont issus de la techniques de studio, c'est-à-dire qui pour moi ne sont pas des plugins intéressants, créatifs. En fait, ce sont des correcteurs de son. Hein, on va corriger les fréquences, on va corriger la couleur du son, des choses comme ça. Alors là, il y en a des milliers, mais au fond, on s'en fout un peu de tout ça. Par contre, il y a quelques plugins. On parlait des GRM Tools, mais ceux-là, il y en a deux familles. Il n'y en a pas 36 000, mais ils sont quand même 8. Il y en a 20, 12, 24. Et eux... qui reprennent des principes de manipulation beaucoup plus intéressantes. Par exemple, on a le shuffling, qui, par exemple, c'est le fait de prendre à l'intérieur d'un son de tout petits fragments. On peut choisir la dimension du fragment et on peut choisir surtout la multiplication du fragment et on peut choisir la hauteur du fragment. Donc, en plus, chaque bouton, chaque réglage peut être relié à un bouton, par exemple un curseur d'interface en MIDI. Et donc, manuellement, petit à petit, donc à l'oreille aussi, on peut arriver vraiment à créer des processus d'évolution de son. Par exemple, la multiplicité. Tout d'un coup, on va partir d'un son très simple, il n'y en a presque pas. Et puis, on va multiplier les petits fragments, les changer de hauteur. Et tout d'un coup, on va aller vers le grave, vers l'aigu. On va avoir une espèce de nuage qu'on va nous gérer petit à petit à l'oreille. Et là, ça fait déjà, c'est quand même un processus de ça, ça. Il y a une direction que...
C'est curieux parce que c'est ce genre de choses que moi aussi je fais parce que ce sont des processus. Mais au lieu de garder le son entier, je prends des petits bouts pour les combiner avec d'autres choses qui sont complètement différentes pour casser l'identité de la manipulation. Et moi j'entends beaucoup les manipulations un peu brutes. C'est tout un son long fait comme ça. Et moi, je préfère beaucoup de petits sons différents qui font comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? La combinatoire, toujours la combinatoire.
Mais après, c'est très artisanal comme technique. Mais oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun y met de son imagination, de son goût et de sa créativité. Évidemment, c'est le côté orfèvre. C'est-à-dire que nous, on se cite compositeur ou compositrice en se disant qu'on est des espèces d'artisans du son. Ouais. C'est-à-dire, quand je dis artisan, c'est-à-dire qu'on va y passer beaucoup de temps. C'est de la joaillerie dans la mesure où on y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et que c'est ça qui nous intéresse, au fond, c'est d'arriver à faire des choses assez originales dans ce sens-là. Quoi. C'est-à-dire, c'est tellement travaillé que ça ressemble à rien d'autre.
C'est très personnel.
C'est assez personnel et on essaie d'adapter le projet, l'idée qu'on peut avoir, la sensibilité, l'intuition. On travaille jusqu'à ce que petit à petit, on arrive à trouver cette évocation dans la musique qui va sortir de toutes ces manipulations.
Mais pour autant, vous êtes capable de presque nous ramener un programme de ce qui sera joué, alors que en fait, vous n'avez pas vraiment répété dans ces lieux. La spatialisation, la mise en espace de la musique ne sera pas la même ou pas forcément une habitude, et qu'il y a cette part d'émotion, de créativité qui va donc interagir. C'est à chaque fois des pièces différentes, alors.
Mais c'est différent, oui et non, parce qu'on les... On les a fait. Ce sont des pièces qui ont 10 ans, 15 ans, deux jours peut-être aussi, une semaine, un an. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
Sont-elles les mêmes à chaque fois pour autant ?
Non, jamais.
On les reconnaît, moi, jamais. On les reconnaît. Elles sont quand même fixées. Mais c'est un art de son fixé quand même. Donc les pièces existent sur un CD par exemple, elles sont fixées. En fonction de la chaîne, bon, c'est vrai que si on l'écoute sur un ordinateur, c'est pas du tout indiqué. Il faut quand même des bonnes enceintes parce que c'est une musique de matière, de son, et donc il faut quand même un minimum respecter ça. Sur un iPhone, par exemple, ça passe pas du tout. Mais on les reconnaît. Hein. Mais c'est vrai que jouer sur un acousmonium, dans un espace, par exemple, sous les étoiles, comme on va le faire là, dehors, les gens allongés, ça sonne très différemment. Alors nous, on les reconnaît parce qu'on les connaît bien, on les a faites, mais des gens peuvent ne pas les reconnaître finalement. Hein. Alors la structure est la même, la composition est la même, mais tout d'un coup, le son, ça change beaucoup, beaucoup de choses.
Ça ne réfléchit pas contre les murs, ça part dans l'air. En plus, on le joue différemment. Il y a 8 haut-parleurs au lieu de 24, 33 ou 50 ou 60. L'endroit n'est pas le même. Mais la pièce, elle existe telle qu'elle. C'est-à-dire, on ne change pas la structure de la pièce.
Ni les sons.
Ni les sons, ni rien. Mais l'espace, alors là, l'écoute, elle change. Parce que l'espace a changé, parce que ça bouge différemment, parce qu'on l'entend différemment. Voilà.
On pourrait prendre l'image peut-être d'un mobile, par exemple, de petites choses qui sont dans l'espace comme un mobile, et on en fait une photocopie noir et blanc. Le CD, c'est la photocopie noir et blanc. Et tout d'un coup, nous, on va la jouer comme si on voyait le mobile en vrai. On est dessous et on voit les choses bouger. Et ça,
avec toutes les couleurs.
C'est quand même mieux. C'est mieux qu'une photocopie noir et blanc.
C'est un fait. vous avez abordé là en un petit mot ce côté allongé dans l'herbe. Alors, comment vous définiriez, pour conclure, disons, la musique, dans quelle position doit être le public ? Est-ce que c'est plutôt pour méditer, plutôt pour voyager ? Je ne sais pas.
Pour moi, il peut être n'importe quoi, la tête en bas, les pieds en l'air. La question, c'est que c'est mieux de fermer les yeux. Parce que comme ça, cet imaginaire apparaît dans la tête des gens. Ils entendent différemment que s'ils ont les yeux ouverts en train d'essayer de voir si le son passe. Parce que ça, il y a des gens qui croient voir le son qui passe d'un haut-parleur à l'autre, on ne voit rien. Non, il faut fermer les yeux.
Moi, j'ai monté une association qui s'appelle Musique In Situ, où j'essaie de travailler sur les conditions d'écoute de cette musique, parce que justement, je trouve que les conditions d'écoute sont très, très importantes. De favoriser les conditions d'écoute. C'est une musique assez exigeante, qui est très nouvelle finalement, que les gens n'ont pas encore bien assimilé parce qu'ils n'ont pas eu vraiment l'occasion d'en entendre.
On n'a pas forcément les codes non plus.
C'est très nouveau, donc comme tout ce qui est très nouveau, ça fait peur, ça remet en cause parce que tout d'un coup, on n'a aucun point de repère. Mmh. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça fait peur, on ne connaît pas, c'est ci, c'est ça. Donc on a des a priori et au lieu de se laisser aller, ce qui est nécessaire. Les gens ont des sortes d'appréhension, on va dire. Donc, de travailler sur les conditions d'écoute, pour moi, c'est de favoriser au maximum l'ouverture, disons, peut-être de l'oreille et de la personne. À savoir que si on est allongé par terre, déjà, on est détendu. On voit le ciel étoilé, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est comme détente. Et on reçoit cette musique peut-être avec moins d'appréhension. On est déjà ouvert à un voyage. Et cette musique-là, c'est une sorte de grand voyage imaginaire à partir du son. Par exemple, les gens qui sont très mélomanes ont beaucoup plus de mal que les autres parce qu'ils sont tellement habitués à écouter de la mélodie et du rythme que tout d'un coup, il n'y a plus de mélodie, il n'y a plus de rythme, il y a de la matière sonore, il y a des forces, il y a des formes, il y a de l'évocation, il y a de la suggestion. Et au lieu de se laisser aller avec ça, ça bloque. Parce que tout d'un coup, c'est du bruit.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors que c'est quand même du bruit très travaillé, très structuré, qui est construit. C'est comme une grande architecture sonore. Et il faut mieux se laisser aller là-dedans et puis, pouf, partir, quoi. Et je pense que... Alors, fermer les yeux, effectivement, soit on regarde le ciel étoilé, c'est comme si on fermait les yeux. Le mieux, certainement, c'est d'être dans le noir et de fermer les yeux. Et ça, c'est comme ça qu'on entend le mieux et qu'on se laisse le mieux partir.
Les mettre dans des situations, quelquefois, qu'ils ne peuvent pas être, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre par terre. Et ça les dérange même. Je me dis toujours qu'il faut une situation dans laquelle ils peuvent choisir leur situation physique. Il faut tâter le terrain, il faut être très attentif à ça, mettre des choses par terre, oui, mais chaises longues aussi. Tenir compte aussi du physique des gens et des peurs. Il y a des gens qui ont peur d'écouter couché. Et d'autres qui sont trop intellectualisés s'ils sont assis sur une chaise parce que c'est le type concert. C'est-à-dire, ils vont jouer avec un violon et puis, pouf, ils se trouvent devant un chien. Alors ça, c'est évidemment différent. Et je pense qu'il faut moduler ça aussi et tenir compte de ça.
En tous les cas, la pire des situations, et malheureusement, c'est ce qui arrive la plupart du temps, c'est de se trouver dans une salle de concert avec une scène. Et au lieu de voir quelque chose sur la scène, il ne se passe rien. Alors les gens sont dans une position de théâtre, donc ils attendent quelque chose parce que c'est normal, puisqu'il y a une scène devant, et la scène reste vide. Et là, c'est vraiment le pire pour moi. C'est-à-dire, je trouve que c'est complètement aberrant. Donc, voilà.
Même pas vous sur la scène tout seul.
Et même si on voit quelqu'un avec son petit ordinateur qui bouge deux boutons et qu'en général, complètement rentré sur lui-même, c'est pas suffisant. Parce que ce qui est quand même intéressant d'un violoniste, c'est de voir la virtuosité du violoniste. Et quelqu'un avec un laptop là où on voit rien, moi je trouve pas ça très passionnant. Par contre, les DJ, oui, c'est autre chose. Et les gens sont très visuels maintenant, ça leur manque de ne pas voir quelque chose, c'est certain. C'est pour ça que je dis que le ciel étoilé, c'est un moindre mal, disons. Mais on est dans une société visuelle et d'écouter en fermant les yeux et de faire appel à ces images plutôt intérieures, c'est pas facile.
J'ai interviewé il n'y a pas très longtemps une personne qui disait très justement, aujourd'hui la musique ne s'écoute plus, elle se regarde, il faut toujours clipper, faire un... Voilà, c'est peut-être les deuxièmes personnes en une semaine à dire la même chose, finalement.
Absolument. Et ça, on a pu le voir quand on a fait une impro ensemble. Ils étaient tous fascinés parce que j'avais la bande magnétique, je le faisais avec des magnétophones. Donc, il y avait quelque chose à voir. Et elle avait un clavier, alors elle bougeait les mains. C'était un spectacle. Et ils étaient fascinés par le fait qu'il y avait des bandes magnétiques que je mettais comme ça sur mon cou, parce que sinon je me mêlais les pédales. C'était le seul endroit où je pouvais les mettre. Ils pensaient que c'était toute une mise en scène, je ne sais pas quoi, du théâtre. Alors, ils ont écouté la musique en même temps comme du théâtre. Mais je ne sais pas s'ils ont vraiment écouté la musique.
Mais oui, c'est ça, ça passe mieux. C'est-à-dire, le spectacle passe mieux. Je pense que la vision, le fait de regarder, empêche d'entendre.
Oui,
moi, beaucoup. J'en suis sûre. J'en suis sûre.
Moi aussi.
C'est que dès qu'on regarde, on n'entend plus.
Non.
Et là, ce qu'on propose, c'est de faire un voyage de l'écoute. Et ça, c'est extraordinaire.
Et les gens sont habitués à regarder un violoniste, un pianiste, parce qu'ils croient comprendre la musique, parce qu'ils voient jouer. Ils n'entendent pas. Et ça, je le vois tout le temps avec la partition. Mais ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas le son. Ils entendent ce qu'ils veulent, les notes, les machins, les trucs, comment se construit. Mais l'autre qui joue, ils sont fascinés. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose là qui passe à côté.
À Boulk et à Barnave, donc, vous allez être cachés dans un petit coin. Il n'y aura pas d'éclairage. Comment ça va se passer?
La console est normalement, c'est pas encore installé, mais on se met plutôt au milieu du cercle. Et les gens à l'intérieur d'un grand cercle, et les haut-parleurs autour en cercle. Donc nous, on interprète au milieu avec nos boutons. C'est pas grand-chose, mais voilà.
Au sol?
Non, sur une table.
Une table, parce que sinon c'est mieux, une table. Mais les gens sont autour de nous, et puis les haut-parleurs sont autour des gens.
On va faire en fonction du terrain, oui. et on installe aujourd'hui et demain, donc on va essayer de voir en fonction du terrain.
À Boulk, c'est quel emplacement, justement?
À Boulk, c'est derrière la salle des fêtes, ça s'appelle le Pré du Moulin. Donc c'est un endroit, une sorte de terrain... municipal, je pense, où il y a des jeux, il y a des tables de pique-nique, il y a de très belles essences d'arbres, donc il y a des arbres un peu parsemés sur l'herbe. On est un peu abrité par des beaux bâtiments, et puis après, il y a la montagne. Et à Barnave, on est derrière la salle des fêtes, il y a un terrain de football qui est très ouvert sur les montagnes, c'est magnifique.
Face au Glandas.
Au Glandas, et donc on va se mettre sur le terrain de football.
Mmh. Voilà.
Et on est très contente d'être à la place de joueurs de football, parce que des fois, on en a marre d'avoir que les gens regardent les matchs à longueur de temps à leur télé sans aller au concert.
Mais on peut se rassurer, c'est un petit terrain de football municipal pour les gens qui y habitent comme moi, par exemple.
Ouais,
ça nous arrive d'essayer de jouer au foot là-dessus, sans prétention. Hein. Voilà. Mais il a aussi servi à plein d'autres choses, et je pense qu'à Barnave... ça, les gens savent à quel endroit ça se passe. On a eu du cirque sur cet endroit-là. On a eu beaucoup de choses. Ouais.
Ah ouais, oui, formidable.
Donc, il est déjà habitué à ça. Alors, on rappelle, c'est donc ce soir, le 30, à Boulk.
21h15.
Et à Barnave, le lendemain, le 31, à 21h15 aussi. On ne peut pas se quitter sans un peu de musique, puisque vous avez amené des CD et qu'on en a parlé. On va passer un titre de chacune. Alors, est-ce que vous voulez bien déjà le choisir et puis nous le présenter peut-être en quelques mots?
Bon, je vais vous dire la rivière des oiseaux bleus parce qu'elle est la plus courte. C'est un triptyque de trois oiseaux, la rivière des oiseaux, la rivière des oiseaux cachés, la rivière des oiseaux bleus, qui est issu d'un rêve que j'ai fait dans les années 90 et qui m'avait beaucoup frappé parce que c'était un rêve éveillé, c'était conscient. Je suis revenue du rêve assise sur mon lit en train de rouspéter parce que c'était un rêve un peu costaud. Et c'est de là que j'ai fait ces trois pièces. Alors, il n'y a pas d'oiseaux, mais on entend des oiseaux, que c'est moi qui les fais quand même. D'accord. Il n'y a pas des oiseaux vrais, je veux dire.
Christine.
Peut-être passer un extrait de La Condition Captive. C'est la pièce dont j'ai parlé tout à l'heure, où donc j'ai travaillé sur l'idée de la captivité, qui peut-être c'est la captivité de notre condition humaine. Et donc avec des sons de chevaux, des sons assez bruts. Pas très trafiqué, pas très abstrait finalement. Et c'est un peu la construction et l'évocation qui fait que ça devient une œuvre assez expressive peut-être.
Thank you.
Je vous remercie à toutes les deux d'avoir pris ce temps pour venir nous présenter à la fois votre travail et puis ces concerts. On entendra les enfants de la crèche qui se sont invités. Et puis, comme on a fait l'interview aux fenêtres ouvertes, il y aura aussi les bruits du parking. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé, mais c'est l'été.
On a nos sites et donc on
voilà,
peut...
Je voulais terminer avec ça, un petit coup de promo personnel. Mmh. Où peut-on vous trouver alors ?
Donc moi, sur Internet, j'ai le site à Christine Groult, Musique In Situ. Béatrice a son site à Béatrice Ferreira. Et là, on peut avoir tous les renseignements sur notre travail et notre composition.
Et je mettrai ça, bien sûr, sur la page Internet.
Mais souvenez-vous que vous pouvez écouter aussi avec un casque, ce qui donne tout un relief qu'on n'a pas avec deux haut-parleurs comme ça dans l'air. Le casque, il vous donne la musique dans la tête. Et ça aussi,
moi,
c'est d'ailleurs une autre chose.
Ma manière préférée d'écouter la musique.
Ouais.
Hein,
ah, oui, c'est
plus
ça.
Qu'une bonne scénifique.
Oui, absolument. Ouais. Oui.
Merci à toutes les deux, en tout cas.
Bah, merci à vous.
Merci à vous, oui, de nous avoir invités.